Laudetur Jesus Christus.
En Irak, le blocage politique menace la stabilité du pays. Les principaux partis chiites se mobilisent et s'opposent aujourd'hui. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Le premier navire de céréales d'Ukraine ira finalement en Turquie, puis en Égypte. L'identité de l'acheteur reste inconnue. Il contient 26 000 tonnes de maïs. C'était il y a un an, la débâcle de l'invasion américaine en Afghanistan et le retour des talibans. Aujourd'hui, l'aide internationale pour la population se fait toujours attendre. 1 million de réfugiés climatiques en Somalie à cause de la sécheresse, du jamais vu dans la corne de l'Afrique. Nous entendrons le témoignage du nonce apostolique à Mogadiscio.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Deux rassemblements en préparation à Bagdad ce vendredi. Ceux qui soutiennent le responsable chiite Moqtada al-Sadr et ses opposants également chiites. Le bras de fer se poursuit quant à d'éventuelles législatives anticipées dans un Irak qui s'enfonce dans la crise politique. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
Le blocage politique que connaît l'Irak, alimenté entre autres par les rivalités interchiites et ingérences extérieures, menace la stabilité du pays. La crainte que les manifestations organisées à 17h ce vendredi par les principaux partis chiites ne dérapent en affrontements violents entre manifestants politiquement opposés. Le premier ministre irakien Mustafa al-Kademi a appelé hier, je cite, à un dialogue constructif entre forces politiques, unique solution au problème, a-t-il dit, assurant que son cabinet ne prenait pas part au conflit politique qui paralyse le pays. Le religieux chiite et nationaliste Moqtada al-Sadr, grand gagnant des législatives d'octobre 2021, a demandé à ses partisans de manifester en masse dans leur province pour exiger la dissolution du Parlement ainsi que la tenue de nouvelles élections. Une contre-manifestation à la manifestation organisée par le cadre de coordination férivo-chiite proche de l'Iran, très représenté au Parlement. Eux auront pour maître mot cet après-midi le respect du cadre législatif et judiciaire ainsi que la formation d'un gouvernement. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
En Syrie, dans les régions du Nord, sous contrôle des opposants, plusieurs groupes appellent à manifester contre le régime turc ce soir. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, la Turquie s'était farouchement opposée à Bachar al-Assad. Mais jeudi, le chef de la diplomatie turque semblait avoir changé de ton. Nous devons d'une manière ou d'une autre réconcilier l'opposition et le régime en Syrie, a déclaré Mevlut Cavusoglu, suscitant la colère des opposants et des rebelles syriens. Il était parti d'Odessa le 1er août avec 26 000 tonnes de maïs à son bord, le Razoni. Le navire qui avait inauguré la reprise des exportations de céréales ukrainiennes en vertu d'un accord entre Kiev et Moscou devait initialement décharger sa marchandise au Liban, mais la commande a été annulée par l'acheteur et le Razoni a finalement accosté aujourd'hui au port de Mersin en Turquie. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
Après 11 jours en mer, le Razoni est enfin arrivé à bon port, mais pas celui où on l'attendait. Jeudi après-midi, le navire battant pavillon de Sierra Leone est arrivé à quai dans le port de Mersin. Il était ancré depuis 2 jours au large de cette ville du sud de la Turquie. Le destinataire initial de sa marchandise, un acheteur privé du Liban dont l'identité n'a pas été dévoilée, avait annulé la commande, soulevant des doutes sur sa qualité en raison du retard de livraison, plus de 5 mois, à cause de la guerre. Le maïs, en tout cas une partie de la cargaison, a finalement trouvé en Turquie un nouvel acheteur dont l'identité reste elle aussi inconnue. Des informations confirmées par une porte-parole des Nations Unies au sein du centre de coordination conjointe basé à Istanbul. Selon un agent maritime de Mersin, le Razoni doit décharger sur place 1500 tonnes de maïs sur les plus de 26 000 tonnes qu'il contient avant de poursuivre son voyage vers l'Égypte. En tout, 12 bateaux ont jusqu'ici pu quitter l'Ukraine grâce à l'accord sur les céréales. Cela représente plus de 370 000 tonnes de produits agricoles, principalement du maïs. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
C'était il y a un an, le 15 août 2021, la ville de Kaboul tombait aux mains des talibans et en quelques jours prenait fin 20 ans de présence occidentale sur le territoire afghan. Aujourd'hui, le pays est à la dérive économiquement, la famine menace la population et les contraintes quotidiennes pesant sur les femmes sont réapparues peu à peu. Sur le plan international, le régime taliban s'isole, laissant les civils survivre comme ils le peuvent. Victoria Fontan est vice-présidente aux affaires académiques de l'Université américaine d'Afghanistan. Elle était dans le pays jusqu'à l'année dernière. Elle nous témoigne des attentes des Afghans vis-à-vis de la communauté internationale.
Quand on entend beaucoup de personnes qui émettent des sentiments va-t-en-guerre depuis leur fauteuil quelque part en Europe ou aux États-Unis, les Afghans en Afghanistan, ça les inquiète, ça les énerve aussi beaucoup parce que les Afghans de la diaspora ne sont pas ceux qui doivent vivre et mitiger ce risque avec les talibans au jour le jour. Ils espèrent une aide humanitaire et une aide internationale face à la situation économique et l'insécurité alimentaire qui est en train vraiment de s'étendre en Afghanistan. Ils espèrent aussi que la communauté internationale va continuer sa pression envers le régime taliban par rapport aux droits humains, pour être sûr que justement cette chape sécuritaire ne se durcisse pas. Mais ils espèrent aussi que le dialogue continue. Et ils se sentent vraiment pris en otage dans un conflit entre une communauté internationale et d'un côté et les talibans de l'autre. Et une fois de plus, c'est la population qui vraiment trinque.
Voilà, Victoria Fontan de l'Université américaine d'Afghanistan. Elle était interrogée par Xavier Sartre. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Plusieurs pays d'Europe envoient leur aide pour aider la France à lutter contre les incendies. 8 sont en cours à travers l'Hexagone, notamment dans le sud-ouest, qui fait face à une sécheresse historique cumulée à des températures trop élevées. 41 degrés hier, 37 degrés sont attendus aujourd'hui. Flambée de violence hier soir à Ciudad Juárez au Mexique, à la frontière américaine, 8 personnes ont été tuées, notamment dans des émeutes dans une prison, des violences toujours attribuées au cartel de la drogue. Au large de Taïwan, Pékin a terminé ses exercices militaires et c'est maintenant au tour de l'armée taïwanaise de montrer ses muscles. Elle a réalisé de nouvelles manœuvres hier, simulant la défense contre l'invasion de la Chine. Les navires et les avions militaires chinois sont, eux, toujours stationnés dans les eaux de Taïwan. Plus d'un million de personnes obligées de quitter leur terre à cause du réchauffement climatique. La sécheresse a des conséquences catastrophiques sur la Corne de l'Afrique et en particulier sur la Somalie. Une situation inédite depuis 40 ans. La famine menace la moitié des 7 millions de Somaliens. Depuis janvier 2021, 1 million d'entre eux ont dû quitter leur domicile, selon les Nations Unies. L'administrateur apostolique de Mogadiscio, Monseigneur Giorgio Bertin, revient sur cette dramatique situation.
Certainement, la situation est dramatique. Elle frappe particulièrement certaines régions comme la région du sud-ouest, le centre de la Somalie, une partie du nord-est du Somaliland. Le chargé pour les questions humanitaires d'urgence en réponse à la sécheresse nous a dit de la grande sécheresse qui frappe particulièrement les régions de Bakol, de Bay, où il y a les gens qui sont semi-nomades, donc qui vivent de nomadisme et d'agriculture. S'il n'y a pas de pluie, ce sont eux les premiers à être touchés. Beaucoup de ces gens-là se déplacent naturellement envers les villes, particulièrement Mogadiscio, mais en d'autres villes, parce qu'ils sont presque sûrs que là, de l'aide pourrait arriver, parce que ces lieux-là sont plus sûrs. Il y a une présence du gouvernement fédéral et une présence du gouvernement local.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel à retrouver sur notre site internet. Le dépouillement continue au Kenya après le scrutin de mardi pour élire président et pouvoir local. Les résultats s'annoncent les plus serrés de l'histoire. La commission électorale du pays publie les résultats au compte-gouttes, faisant le choix de la transparence. Mais ce midi, les télévisions ont arrêté de partager les résultats. Les chiffres officiels sont attendus au plus tard mardi prochain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Nous serons de retour sur les ondes mardi matin à 8h30 pour le journal. Mais vous pourrez suivre en direct avec nous sur Facebook et YouTube l'Angélus dimanche midi avec le pape François et également lors du lundi 15 août. Très bon week-end à toutes et à tous.